Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
14h04 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec l'augmentation du jour. Et c'est celle du nombre de loyers impayés en France. Selon Foncia, 15% des locataires ne paieraient pas leur loyer en temps et en heure. Un chiffre qui a triplé en 3 ans. Rémi, que peut faire un propriétaire quand il se retrouve dans cette situation?
Se fonder sur la loi du 27 juillet 2023. Elle est récente, cette loi. Oui. Et elle vise à mieux protéger les petits propriétaires. Elle a entre autres raccourci le délai dont dispose un locataire pour verser les sommes qui lui sont réclamés, un locataire qui est en situation d'impayé. Avant, il avait 2 mois pour rembourser sa dette, avant que toute autre démarche ne soit entamée. Désormais, il doit rembourser sa dette au maximum 6 semaines après le commandement impayé. Problème, la durée d'une procédure d'expulsion varie toujours fonction de plusieurs facteurs, notamment de la complexité du cas. Par exemple, s'il y a des enfants, si le locataire est malade, ça peut arriver. Et là, forcément, c'est beaucoup plus complexe. Ça dépend aussi de la coopération de ce locataire, s'il est de bonne foi, si effectivement il explique qu'il va entamer des démarches pour pouvoir parvenir à rembourser ses loyers.
C'est toujours ce qu'il dit au début.
Ou alors si au contraire, parfois aussi, il n'y a pas de nouvelles du locataire, il ne veut pas répondre, il dit débrouillez-vous, moi je m'en fiche. Il y a aussi, évidemment, la charge de travail du tribunal, si le tribunal est saisi. Sans compter, évidemment, la trêve hivernale qui s'étend du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Là, durant cette période, vous le savez, on ne peut pas expulser un locataire, même si les procédures, c'est la procédure entamée, elle ne s'arrête pas. Mais en tout cas, la loi de juillet 2023, on l'a dit, elle est encore toute récente. Difficile d'avoir du recul sur ce qu'elle a pu changer. Mais en moyenne, en France, les délais entre le lancement de la procédure et l'expulsion effective d'un locataire varient beaucoup. Et la plupart des professionnels de l'immobilier s'accordent aujourd'hui à estimer que ce délai varie entre 6 mois et 1 an. Et demi.
Ouais, 1 an et demi, ça fait évidemment long pour le propriétaire qui doit continuer à payer ses loyers. Alors, est-ce qu'il faut expulser sans délai les locataires indélicats, Thierry Moreau?
Je pense que le mot important dans ce qu'a dit Rémi dans son explication très détaillée, c'est le mot bonne foi. C'est-à-dire que je pense qu'on a affaire à deux types de locataires. Des locataires qui sont dans la précarité, qui ont à un moment peut-être un accident de la vie qui fait qu'ils ne peuvent pas régler leur loyer. Et là, entre le propriétaire qui n'a pas à payer, évidemment, ce désagrément-là, il doit y avoir une intermédiation des services sociaux qui permettent d'aider à sortir d'une telle situation. En revanche, quand on a affaire à ces squatteurs professionnels, à des gens qui, par dessein, qui sont même d'ailleurs très bien organisés, on le sait, il y a des réseaux de gens comme ça. Là, évidemment, la réduction de délai ne suffit pas. Ça a été un premier pas de la loi. Aujourd'hui, on a un engorgement des tribunaux sur ce type de dossier qui fait que ça n'avance pas. Là, il faut être évidemment impitoyable sur ces gens qui sont des professionnels du squat et du non-paiement des loyers. Je pense qu'il faut vraiment faire de la dentelle. Et la difficulté, c'est effectivement distinguer la personne de bonne foi de celle qui ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, la loi ne peut pas tout régler de manière comme ça, ferme et définitive. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Voilà.
C'est vrai qu'on entend beaucoup de faits divers. Chaque jour, il y en a un avec une personne. Là, c'était une vieille dame qui est obligée de squatter son garage.
C'est incroyable.
Parce qu'elle a des locataires
ça,
qui ne veulent pas
inadmissible.
Partir de sa maison.
Et il faut rappeler, contrairement, on a regardé ce matin, je t'en parlais, Estelle, pendant qu'on préparait cette émission, que contrairement à ce qu'on entend parfois, les multipropriétaires, c'est leur business, etc.
Non.
64% des propriétaires qui louent leur bien n'ont qu'un seul bien.
C'est ça.
Qu'ils louent.
Donc c'est pas les multipropriétaires.
C'est la classe moyenne.
Ce serait bien de combattre cette idée.
Et
un tiers de ces propriétaires loueurs sont des retraités.
Voilà, donc on est loin de Bernard Arnault qui possède toute la côte et qui louerait à prix d'or ses appartements.
La dame dont on parlait, le fait divers dont on parlait, elle a fait une erreur majeure, c'est qu'elle a fait quelque chose d'interdit, elle a arrêté le compteur.
Ouais, elle a EDF.
Alors en plus, elle l'a payé parce que ça a créé de la moisissure et son logement est devenu insalubre. Et ça, c'est totalement interdit, quand bien même on est excédé, quand bien même on a affaire à la deuxième catégorie dont tu parlais, Thierry. Donc des gens vraiment pas sympas. C'est pas des gens qui ont un problème qui va
voyous.
Voilà,
des
voyous. Voilà.
Sympa.
Y a tout un tas de choses que les propriétaires n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le droit de changer les serrures. Ils n'ont pas le droit de forcer les serrures ou de profiter de l'absence du locataire pour le déménager. Ils n'ont pas le droit de couper les compteurs d'eau d'électricité. Ils n'ont pas le droit de couper Internet, téléphone, ils n'ont pas le droit de recourir à la violence. Oui, la loi protège énormément les locataires. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire.
C'est un problème.
Et le problème de la bonne foi et le problème de la dentelle dont parle Thierry, effectivement, on est obligé d'aller au cas par cas. Mais je suis pour une politique dure sur les les escrocs, évidemment, qui existaient vraiment. Mais pour tous ceux qui ont des réels problèmes, effectivement, la médiation, sachant que on ne peut pas virer quelqu'un qui a plus de 65 ans, on peut pas virer des personnes handicapées ou des personnes qui aident des personnes handicapées.
Mais le problème, c'est
là,
que
c'est la médiation. Mais on en vient toujours à ces tribunaux complètement.
Et si la personne n'est insolvable,
tout ça est inadmissible parce que de l'autre côté, rien ne vous dit que la personne n'est pas dans la mouise complète et que si son bien est squatté ou si elle ne peut pas en tirer les revenus, elle-même va être également dans la précarité. Donc moi, je veux bien cette histoire de bonne foi, mais il faut aussi savoir, et Rémi a donné des chiffres, que beaucoup de gens qui souffrent de ces loyers impayés finissent par eux aussi tomber dans la précarité, être mal en point. Pour un proprio qui est déjà, je le dis, mais c'est pas normal, peut dire. Bon, allez, il a pas besoin de cet argent pour vivre. Mais déjà, ça, on devrait même pas le dire. Parce que, à partir du moment où tu loues ton bien, celui qui ne paye pas, il est déjà hors la loi. Et c'est après qu'on examine éventuellement si vraiment il est dans la mouise. Et donc, c'est pour ça que je vais pas répondre à la question, faut-il expulser sans délai? Oui, parce que il faut un délai. Parce que tu dois quand même voir si la personne.
Mais évidemment, c'est pas 24 heures.
Non, mais c'est très échéancé,
donc,
hein.
Il y a un délai, mais le problème, c'est que on est bien au-delà d'une histoire de délai. Il y a tous les cas particuliers. Il y a tous les cas où tu peux pas. Et effectivement, la loi protège beaucoup, beaucoup, beaucoup trop le locataire. Avec juste cette image que le proprio, c'est le riche. Le locataire, c'est le pauvre. Et que si tu payes pas, eh ben, en fait, c'est parce que tu peux pas, alors que dans plein de cas, on est juste dans des escroqueries, et Thierry a raison de le rappeler, et ça arrive des cas avec des proprios qui se font arnaquer, il y en a des tonnes.
Sauf que quand le proprio essaye d'intervenir lui-même dans les cas que j'ai cités tout à l'heure, il risque 3 ans de prison quand même.
Je n'ai pas de cas comme ça, mais je crois que je préférerais tomber dans l'illégalité pour foutre le gars dehors.
T'as des histoires avec des gens qui sont squattés depuis des années, qui n'arrivent pas à trouver leur bien, et ça doit avoir cette patience.
La dame qui dort dans son garage, comme elle a coupé l'électricité qu'elle pas le droit, donc son logement est devenu insalubre, donc aujourd'hui on lui demande de rénover son logement, mais elle peut pas puisqu'elle touche pas les loyers. Elle ne peut plus les expulser.
Elle-même est surendettée, elle dit qu'elle a 800 euros de retraite par mois
et la loi ne va pas dans son sens. C'est un scandale.
Malheureusement, c'est les propriétaires, c'est qu'en fait ton locataire ne te paye pas, toi propriétaire tu te retrouves tout seul, alors que c'est au pouvoir public normalement de devoir régler le problème. C'est pas à toi propriétaire d'aller en médiation, etc., alors que c'est toi qui n'es pas payé. Tu subis un préjudice et personne ne t'aide. Alors normalement, c'est au pouvoir public de trouver un hébergement pour la famille qui ne paye pas, d'aider le cas échéant, évidemment, si c'est une personne en situation de handicap, de lui trouver un hébergement, de lui trouver un accueil décent, et de faire que le propriétaire ne soit pas lésé.
Le
propriétaire ne doit pas payer la situation, et là, les services sociaux doivent intervenir très vite. Et quand c'est des escrocs, c'est pas les services sociaux qui peuvent intervenir.
On ne peut malheureusement pas être étonné quand tu es locataire et qu'avant de rentrer dans un bien, on te demande une tonne de garantie. Malheureusement, la vérité, c'est que demain, moi, si j'ai un bien à louer, il est possible que je demande je vais exagérer volontairement, les gens comprendront. Mais limite, je veux tout savoir de la personne qui va rentrer, quoi.
Bien sûr.
Quelles sont ses garanties?
Moi, je veux avoir des garanties bancaires de la famille. Les parents,
parce que t'as tellement peur de ce qui peut se passer derrière.
Même quand t'es pas étudiant.
Que tu vas devenir, à limite, tu vas te comporter comme un mec du FBI, quoi.
Moi, mon deuxième appartement, on était un couple, on bossait tous les deux, il y a eu la caution de tous les parents. Sinon, on n'avait pas l'appart. J'ai trouvé ça dingue.
Alors, on a beaucoup d'appels au 32-16 pour parler de ce sujet. On a notamment Nathan qui nous appelle d'Aubin, dans l'Aveyron, qui est entrepreneur. Et Nathan, vous, votre logement a été squatté, hein, c'est ça ?
Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, nous, on s'est fait squatter par un professionnel. État des lieux normal, le mec nous a fait le virement pour la caution en direct, sous les yeux, vendredi soir.
D'accord.
Bon, on s'est étonné, le lundi, mardi, de toujours rien recevoir sur le compte, et quand on a appelé ce mec-là, il répondait plus, quoi. Il était parti en Tunisie.
Ah.
Et après, ça a été une véritable histoire. C'était un sacerdoce, il nous a jamais payé, il a fait traîner, et dès qu'il est rentré dans le logement, il nous a dit non, mais je paierai pas, tout simplement parce que il y a un édit qui est bouché. C'est dit comment ça? D'accord. Le dernier locataire, il n'y avait pas eu d'histoire. C'était nickel. L'appartement a été refait à neuf il y a 3 ans. On s'est dit non, c'est pas possible, quoi. Et malgré toute la bonne foi qu'on y a mis, on s'est vite rendu compte que c'était un escroc. Et derrière, on est du coup allé voir les huissiers de justice, et déposer une main courante contre lui parce qu'il nous a fait des menaces, etc.
Ah oui.
Enfin, une vraie cata, quoi.
Ça a duré combien de temps, Nathan?
Bon, on a été assez rapide, ça a duré 3 mois. Là, on vient juste de réussir à sortir, mais bon, enfin, on a la chance, c'est qu'on est 3 associés, 3 mecs grands et plutôt gaillards.
D'accord.
Ouais. Dont un gendarme, il a fini par avoir trop de pression et il est parti, quoi. Mais bon, c'était catastrophique.
Donc, vous reconnaissez avoir été quelque part un petit peu contraint de mettre un coup de pression?
Ah mais carrément, Daniel. Si on
je comprends, Nathan. Moi, je vois pas comment je crois que je céderais.
T'as pas le droit de te faire justice toi-même. C'est un des fondements.
Regarde, Nathan est en train de t'expliquer que quelque part, ça a duré que 3 mois. Ça aurait pu durer beaucoup plus s'il avait pas mis ce coup de pression avec ses deux amis costauds.
Après, Nathan, il a pas utilisé la violence. Il a mis la pression.
On a parlé d'un coup de pression.
Voilà.
Mais déjà, le coup de pression à la base ne devrait même pas exister. En fait.
Ouais. Mais Nathan, au moins il vous a rendu votre logement en bon état.
Alors ouais, bonne surprise, l'appart il était nickel. Bon. Voilà, ça c'est ouais, ça bon côté quoi. Mais bon après, il y a des escrocs, vous leur donnez le bon Dieu sans confession quoi. Les papiers sont nickel. Voilà, et puis après, nous ça fait 3 ans, on a d'autres logements, on n'a jamais eu d'histoire avec personne. Tout s'est toujours très très bien passé. Voilà,
c'est bien de le dire aussi Nathan, parce qu'on a toujours l'impression que. Que c'est dur de louer son logement, mais enfin la plupart du temps, faut quand même le rappeler, ça se passe bien. Oui. Voilà, et puis vous ça s'est bien terminé parce qu'en plus votre logement n'a pas été dégradé, ce qui est quand même malheureusement très souvent le cas avec les locataires indélicats. Ils laissent jamais l'appart nickel, malheureusement, et malheureusement pour les propriétaires. Merci beaucoup Nathan, en tout cas de nous avoir appelé.
Il y a beaucoup de faux, attention, de faux bulletins de paie. Donc c'est très très compliqué. Quand j'entendais Daniel tout à l'heure dire qu'il demanderait beaucoup de choses sur la personne qui doit aller dans son logement. C'est là aussi très compliqué parce qu'on peut aussi se faire arnaquer.
Et évidemment, et on a plein de messages également sur l'appli RMC, plein de témoignages.
Ce message de Willy qui dit « Moi, je contrôle tous les papiers et je contacte les derniers bailleurs, c'est-à-dire les anciens propriétaires, l'entreprise même pour laquelle le candidat locataire travaille. »
Ah, carrément, tu peux appeler le patron de l'entreprise.
T'as pas le droit. Hein.
T'as pas le droit, mais bon.
Le problème, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire et que c'est
pas propriétaire. Certains sont pas là
non, mais je suis d'accord, je ne juge pas. Je dis simplement qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et qu'il faut quand même.
Alors justement, on va demander à Christophe Demerson, notre invité, ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Christophe Demerson, qui est président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et
bonjour.
Merci beaucoup d'être bonjour. Avec nous, Christophe Demerson. Justement, que peuvent faire les propriétaires, tiens, avant de louer leur appartement? Est-ce qu'on a le droit d'appeler l'employeur, les parents, les amis, les anciens bailleurs du locataire éventuel?
Bah écoutez, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de faire tout ça, comme on n'a pas le droit non plus de se faire justice soi-même. Alors écoutez, les coups de pression et tout ça, c'est vrai que ça peut se faire, on va raccourcir les délais, mais raccourcir les délais, je dis tout de suite, faut faire attention parce que c'est un jeu dangereux, un jeu très dangereux et qui peut coûter cher, on l'a vu avec l'histoire de la vieille dame, qui peut coûter cher aux propriétaires. Donc en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux types d'impayés, hein. Si on fait, vous en avez bien parlé dès le début, il y a deux types d'impayés, il y a les impayés accidentels ou conjoncturels, on va dire, d'un côté. Ça, c'est pas le sujet. Et puis, on l'a vu au moment du Covid, où tout s'est globalement bien passé, vu les impayés qu'il y avait, où tout s'est régularisé. Et puis, à côté de ça, on a une toute petite fraction de professionnels. Vous avez employé le mot de l'impayé. Et ces professionnels de l'impayé, en réalité, c'est du perdant-perdant pour tout le monde, pour toute la société française. C'est du perdant pour les propriétaires, bien sûr, qui sont inquiets. Et puis, c'est du perdant pour les locataires. Parce que j'écoutais les auditeurs et tous les gens disent « Bah oui, mais tout le monde fait attention, on demande une tonne de papier, on téléphone. » Bah oui, mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait très bien que si on tire le mauvais numéro, la mauvaise boule, ou la boule noire, on va dire, ça va être compliqué, très compliqué. Parce que les donneurs de leçons, les gens qui vous expliquent que les propriétaires sont des salauds, on les connaît, mais ce qu'il faut voir, c'est que le petit propriétaire à côté de ça, les 35 millions de petits propriétaires, qu'est-ce qu'ils voient à côté de ça? Ils voient à côté de ça que tout continue à tourner normalement. C'est-à-dire que la taxe foncière, on commence à en parler, puisqu'elle vient d'être votée. La taxe foncière, elle tombe, les charges de la copropriété, elles tombent, les assurances tombent, tout le monde tombe, mais personne ne dit rien, là. Tout le monde trouve ça normal. La vieille dame, la veuve du Creusot qui compte sur son loyer, personne s'apitoie sur elle, vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, le propriétaire, lui, il a le pistolet sur la tempe. On lui dit, monsieur, vous prenez le risque. Et aujourd'hui, on en est là. Alors c'est vrai que la loi du 27 juillet...
Elle est plutôt bien faite, cette loi.
Elle est bonne dans l'esprit. Mais vous l'avez aussi très bien résumé. Elle est bonne dans l'esprit et on raccourcit les délais. Mais quand on parle de raccourcir les délais, Estelle, Ça veut dire qu'on passe de quoi? On passe de 3 ans à 18 mois, parce que j'ai coûté 6 mois, si vous voulez, les gens, je sais pas, ces derniers
années,
ça doit être des gens qui habitent à Lourdes, hein. Mais on va dire une moyenne de 18 mois. Une moyenne de 18 mois, rendez-vous compte ce que c'est pour la veuve du Creusot ou pour la veuve de Sanguemines. Il y a beaucoup de personnes âgées, vous le disiez, il y a un tiers de retraités qui ont un seul appartement et qui comptent dessus pour vivre. Et pendant ce temps, les charges courent. Pendant ce temps, les impôts fonciers tendent. Et pendant ce temps, l'appartement est détruit.
Donc là, j'entends Christophe de Berson, mais après, enfin, vous l'avez dit, il faut distinguer aussi deux types de loyers impayés. C'est-à-dire que vous avez aussi la maman qui a trois jeunes enfants et qui se retrouve au chômage du jour au lendemain.
On n'en parle pas de ça, Estelle, je vous l'ai dit. On l'a vu, on a encore eu la preuve.
Mais ça existe.
Lui, il ne parle pas de ça.
Et moi, je fais les Tours de France. Ça, c'est une partie infinitésimale. La dame qui a trois enfants.
Au final, c'est eux, ils sont honnêtes.
Bien, et qui paye son propriétaire régulièrement, vous téléphonerez et je ne serai pas à prendre l'appel. Ça n'existe pas que les propriétaires les mettent dehors. C'est pas vrai. Les propriétaires, ils sont excédés. Et moi, je le vois et le conseil que je donne, c'est justement de dégainer tout de suite quand il y a des impayés. Pourquoi? Parce que.
De dégainer avec la loi, bien sûr.
Ils attendent, ils reculent. Oui, on va s'arranger un mois et demi, deux mois. Et puis petit à petit, la charge, elle grossit. On le voit, les statistiques, elles sont là. Quand les personnes, elles entament la procédure, elles en sont déjà à six mois, à un an.
Oui, bien sûr.
Vous voyez, on n'est pas
En fait, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que, voilà, il faut marquer le coup tout de suite, et puis après, s'ils payent, tant mieux, et puis on retire le truc et il n'y a pas de souci. Mais effectivement, quand on attend, quand on croit à la bonne foi, etc., et c'est là où ça peut s'envenimer et que ça peut durer très longtemps. Je voudrais qu'on prenne en ligne Christophe de Merson. Vous avez dit effectivement la dame qui n'arrive pas à payer, etc., ce n'est pas le sujet, mais ça arrive en tout cas, et c'est le cas d'Alicia qui nous appelle de Mézieux. Mézieux, c'est situé dans la métropole de Lyon. Alicia, elle est en arrêt maladie, et malheureusement, Alicia, vous ne pouvez plus payer votre loyer, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Donc, bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous parler. Je vous regarde tous les jours et Dieu sait que j'aurai de quoi intervenir sur l'ensemble des sujets. Par rapport au loyer, alors franchement, pour vous la faire très courte, je suis dans le domaine des ressources humaines. Je suis responsable RH de formation. Le dernier remplacement que j'ai fait, c'était un responsable. J'ai remplacé un responsable formation en 2022. Fin 2022, je ne veux pas être en CDI avec cette entreprise parce que beaucoup de dysfonctionnements et beaucoup de maltraitance. Et en fait, je me suis terminé ce contrat en épuisement professionnel.
D'accord.
À partir de là, un conflit aussi s'est créé avec l'employeur parce que justement, pas voulu payer les heures sup, etc. J'ai dit, hors de question, je ne travaille pas pour la gloire.
D'accord.
Procédure prud'homale en cours. Et en fait, ça a duré, le temps que ça a duré, j'étais employée en plus sur un SMIC. Ça c'était bon, je l'avais accepté, mais je peux vous dire que je le regrette. Donc ça veut dire que mon chômage derrière c'est calculé sur le SMIC. Donc actuellement j'ai 950 euros de chômage. D'accord. Et j'ai un loyer de 665.
Ouais, donc c'est mort. Ouais, c'était
carrément injouable. J'ai continué à payer mon loyer pendant près d'un an. Et en fait, j'ai prévenu mon propriétaire qui est venu. Ça fait 12 ans que je vis dans cet appartement. Il était même prêt à me mettre une cuisine. Enfin, vraiment, le gars super sympa. Il me dit, voilà, en plus, votre appartement super bien entretenu. Je dis, écoutez, c'est mon lieu de vie. Il n'y a pas de raison de le flinguer. Et en fait, à partir du mois d'octobre l'année dernière, je me suis retrouvée complètement acculée. Et je ne pouvais plus sortir cette somme, j'ai tapé dans toutes mes économies. Alors moi, je suis aussi la personne qui fait partie des personnes qui ne sont pas aidées. Hein. Enfin, moi, c'est de toute façon, c'est quand je parle d'assistance sociale, c'est les gens comme vous, je peux rien faire.
D'accord.
Donc, j'ai tapé dans toutes mes économies et en fait, la situation aussi entre-temps s'était aggravée. Donc, procédure prud'homale s'engage. Moi, mon état ne s'arrange pas. J'étais hospitalisée dans une structure qui traite les psychopathologies liées au travail.
D'accord.
Et donc, en soins, plusieurs fois par semaine, les soins continuent aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu des tas de soucis de santé et depuis le mois d'octobre, je ne paye pas. J'ai prévenu, j'ai évidemment communiqué avec l'agence qui m'a remercié, qui m'a dit « oui, ça fait 12 ans que vous êtes dans l'appart, vous avez toujours tout payé ». Et en fait, aujourd'hui, j'ai une procédure d'expulsion sur le dos. Donc, je dois en plus me retrouver un avocat pour une procédure spécialisée en droit immobilier. Parce que le propriétaire n'en démord pas. Alors, j'entends Daniel et puis Estelle, j'entendais parfaitement le côté, nous, en tant que propriétaire, il y a juste on a un contrat, on est lié par ce contrat. Et c'est vrai, je dois récupérer simplement ce qui m'est dû. Et c'est vrai, je suis la première à le dire. Moi aussi, j'aimerais investir dans l'immobilier. Je me dis que si ça m'arrivait, ça serait terrible. Et la question de la mauvaise mauvaise foi ou de la bonne foi, pour le coup, là, elle se pose, pardon encore, parce que je comprends.
Non, mais c'est ce que dit Christophe Demerson aussi, bien sûr qu'elle se pose, mais Alicia. Non,
ça, on l'a tous dit, Alicia.
On est d'accord avec vous, mais
après,
là, aujourd'hui.
Le propriétaire ne peut pas être également dans la mouise, parce que parfois, ça peut lui arriver, parce qu'en fait, il y a plein de cas où, en fait, il faut se dire que certaines personnes ont mis les économies d'une vie dans un petit appartement et qu'elles n'ont rien d'autre à part ça et qu'elles comptent sur ce loyer-là pour tout simplement vivre. Quoi.
Et que, a priori, Alicia, il existe des solutions, enfin, j'imagine, avec les services sociaux, les services de la ville. Oui, mais en fait, le problème, et votre situation, elle est terrible, je veux dire, évidemment, et on l'entend dans votre voix, je pense que jamais vous auriez imaginé en arriver là, etc. Mais malheureusement, le propriétaire, quelle solution il a à part d'entamer cette procédure, alors, même si elle est terrible, et je l'entends, mais parce qu'à un moment, lui aussi, il a besoin d'être payé.
Oui, alors j'entends cette facette-là, en tout cas, je vous dis, je suis la première, mais moi, si j'étais propriétaire, je pense à ça, évidemment, mais alors en fait, il se trouve que dans son cas, il n'est pas dans le besoin. C'est un PDG de sa boîte, il vit une belle maison dans le Vercors, vue sur les montagnes, il a tout ce qu'il faut. Et j'entends que lui veut récupérer ça, mais lui, j'entends, je ne sais pas le problème, il n'y a pas de mais d'ailleurs dans mon propos, j'entends. Ce que j'ai proposé, c'était, écoutez, en achetant la procédure,
prud'homale. Oui, c'est vrai, il aurait pu vous laisser un délai, mais après, le problème, c'est les prud'hommes. Après, si vous dites cette procédure, elle tombe dans 3 ans, oui, c'est ça le problème.
Au mois de juin,
ça fait 3 mois. Oui, il aurait pu attendre. Non, mais ça c'est vrai. Mais après, malheureusement, ce sont des choses au cas par cas. Mais restez avec nous, Alicia, parce que on a un autre invité qui est Eddy Jacquemart et qui est président de la CNL, la Confédération nationale du logement. Bonjour, Eddy.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est vrai que quand on entend le témoignage d'Alicia, il est très fort, il est très dur, hein, ce témoignage. Mais c'est vrai qu'on se dit, quand vous êtes propriétaire, que vous avez une locataire qui est formidable, hein, comme Alicia, qui a toujours payé son loyer pendant 12 ans, mais qui là, tout d'un coup, ne paye plus. Alors, elle dit, voilà, j'ai une deadline dans 3 mois, et donc, a priori, je pourrais payer dans 3 mois. Mais c'est vrai, on a l'impression que la situation aujourd'hui en France, elle est inextricable, et que le fossé va forcément se creuser entre les locataires et les propriétaires.
Tout à fait. Alors le vrai problème, en fait, c'est le prix des loyers qui est trop cher.
Hein, déjà, vous avez raison, bien sûr.
Mais moi, je voudrais en fait faire une proposition innovante que je porte au nom de la CNL et qui va mettre tout le monde d'accord.
Allez-y.
Aussi bien les propriétaires que les locataires. C'est la sécurité sociale du logement. C'est quoi? C'est une caisse de solidarité nationale alimentée par tous les acteurs du logement, c'est-à-dire le propriétaire, les locataires, l'État, les collectivités, les assurances, tout le monde met la main à la poche. Et en fait, on crée un petit peu comme l'assurance chômage.
C'est une nouvelle taxe.
Quand un locataire a un accident de la vie, ce qui arrive notamment, c'est le cas d'Alicia, et j'en connais plein. Un locataire a un accident de la vie, on déclenche tout de suite cette caisse de solidarité. On envoie une somme d'argent au locataire pour qu'il puisse payer son propriétaire. Et tout de suite, on essaie de travailler à une solution pérenne pour trouver une solution plus adaptée à la situation économique du locataire.
C'est une intermédiation.
C'est ça qu'on propose depuis des années. Mais
ça paraît bien. Ben oui, ça paraît bien, mais après, pourquoi le propriétaire paierait pour quelque chose, en fait, qui est un dû pour lui?
Il y a des propriétaires qui payent 6% de leur loyer aux assurances.
Ouais.
Et pourquoi ils ne paieraient pas un tout petit peu?
Ah oui, ça enlèverait les assurances, d'accord. C'est à la place des...
On a déjà essayé ça.
Et tu ne vas pas avoir plein de gens qui vont être encouragés à ne pas payer parce que derrière, ils disent, ouais, vous avez votre sécurité sociale.
Sauf que cette sécu se retourne contre le mauvais payeur pour X raisons.
C'est
un professionnel.
Vous savez, les locataires aujourd'hui, ils payent leur loyer. Ça a été dit dans votre émission. Les locataires, ils payent leur loyer. La majeure partie des locataires est pas leur loyer. Il y a une toute petite partie, d'ailleurs le président de l'UNPI l'a dit, c'est les locataires qui sont de mauvaise foi, mais il y en a une toute petite partie.
Mais c'est des voyous, quoi.
Voilà, quand le locataire, quand il ne paye pas son loyer, c'est qu'il ne peut pas le payer. Et qu'il a eu un accident de la vie ou qu'il a eu quelque chose. Et les accidents de la vie, eh ben moi je le dis, hein. Et tout à l'heure, quand on dit qu'on ne va pas expulser des mamans avec 3 enfants, tout ça, ce n'est pas vrai. Moi, je suis intervenu la semaine dernière pour une personne qui était une maman seule avec son petit garçon. Le problème, c'est que le propriétaire, il avait pris une assurance et que l'assurance, elle ne cherche pas à comprendre. Ils expulsent. Elle a reçu un avis d'expulsion et elle se retrouve elle s'est retrouvée quasiment dehors. Heureusement, elle est intervenue. Et je te dis, Alicia, il y a des services qui existent pour aider les locataires en difficulté. Il y a aussi des associations. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul.
Mais on va vous mettre en relation, Eddie Jacquemart et Alicia, hors antenne, justement, pour que vous puissiez dialoguer. Et puis peut-être, Eddie, que vous pourrez trouver une solution pour Alicia. Mais c'est vrai que plutôt que de souscrire à des assurances qui parfois coûtent 10% du loyer, c'est vrai que s'il y avait effectivement comme ça une sécurité sociale du logement, tout le monde contribue, c'est-à-dire que le locataire aussi y contribue, et ben franchement ce serait bien et ça permettrait d'éviter des situations inextricables comme cette situation de cette vieille dame obligée de vivre dans son garage
parce que son logement est squatté.
Ouais, mais regarde, si aujourd'hui tu payes, mais je dis n'importe quoi, mais ton loyer, mettons, il est de 500 euros, et ben toi propriétaire tu vas toujours prendre une assurance, donc tu vas prendre 10%, tu vas payer 50 euros à ton agence pour être sûr de récupérer tes loyers si jamais il y a un problème.
Donc,
si au lieu de payer 50 à ton agence, tu payes 30 à une sécurité sociale, écoute, tu seras ravi. Et que tu as les mêmes droits en tant que propriétaire, tu seras ravi. Et si toi, en tant que locataire, tu payes aussi 30 de plus, mais que ça te permet, en cas de coup dur de la vie, de pouvoir rester dans dans l'appartement, finalement, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est vrai que la solution, elle paraît presque trop belle pour être vraie. Merci en tout cas, Eddie Jacquemart, de nous avoir parlé de cette solution. Et merci beaucoup, Christophe Demerson, d'avoir été avec nous. On espère qu'on va trouver une solution pour aider Alicia. En tout cas, on va terminer avec des messages. Rémi, résultat de notre consultation sur Twitter.
Message de Kat qui nous dit pour nous, nous avons été confrontés à 3 ans de loyer impayé par notre locataire. Nous avons fini par prendre un avocat. Ça a duré 1 an. Une personne qu'on ne pouvait pas mettre dehors. Résultat, cette personne s'est révélée être non solvable. Tout a été perdu. On a dû rembourser notre prêt et finalement vendre l'appartement.
Ouais, des témoignages très durs, évidemment. Et on va terminer avec le résultat de notre sondage. Rémi, en cas de loyer impayé, faut-il expulser sans délai?
C'est sévère, mais c'est comme ça. C'est oui pour 73% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.